Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. Et mon petit doigt me dit que je ne suis pas le seul, car je le vois frétiller d'excitation à ma gauche. Stéphane Bern, tout sourire, mais à quoi avez-vous occupé votre week-end, Stéphane ?
Baiser.
Je me disais aussi, on est rarement guiré sans raison le lundi. Bonjour Stéphane.
Bonjour, je vous demande d'arrêter d'utiliser des sons, détourner des sons.
Votre week-end n'a pas été aussi sympathique que je le décris ?
Je n'ai pas à me justifier, ni à évoquer.
On se dit tout entre nous, Stéphane.
Ah non, je vous dis des choses, mais pas à l'antenne. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous savez que quoi qu'il arrive le week-end, je suis toujours ravi de vous retrouver lundi pour parler d'histoire sans se la raconter. Avec aujourd'hui, comme chaque jour, trois personnages très différents, issus d'époques différentes, mais qui partagent un point commun. Aujourd'hui, on peut leur dire « Bah, toi, t'es bien la fille de ta mère ». Et oui, nous évoquerons de dignes héritières au destin qui ressemble trait pour trait à celui de leur mère. À commencer par celui assez méconnu de Cléopâtre Sélénée, c'est son nom.
Et c'est l'aînée, et la seule fille de la reine
Cléopâtre. Je me demandais si vous alliez
la
faire.
Qui fut reine, elle aussi, vous verrez. Puis je vous raconterai Irène Joliot-Curie, qui est bien la fille de Marie Curie. Mmh. Comme elle, elle a passé sa vie dans un labo. Comme elle aussi, elle a reçu 24 ans après le prix Nobel de chimie. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une fille de... qui n'a pas perdu de temps pour marcher sur les traces de sa mère, bon, en tout cas en termes de notoriété.
C'est le moins qu'on puisse dire, Stéphane. Je vous parle aujourd'hui de Lily Rose Depp, la sublime fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, mannequin et actrice dont, pour les besoins de ce portrait, j'ai vu tous les films.
Oui, ça vous a excité un peu. Hein.
Je vous en prie, Stéphane, n'allons pas sur ce terrain-là, mais oui, c'est sûr que ça m'a plus émoustillé que le portrait de Sardou. Oui. On en reparle vers 5h20. Avant ça, il y aura aussi notre célèbre quiz, Fern to be alive, mais d'abord... Vu leur vie dissolue, chaque lundi, c'est un petit miracle de les retrouver.
Ils sont pas en tôle ?
Eh non, Stéphanie, ils sont là, nos chroniqueurs !
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et bonjour messieurs, et moi aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'une certaine Madame Jean McCornick. Le 8 mai 1941, aux États-Unis, elle est invitée dans une émission de radio sur CBS et là, elle déclare être la fille de la célèbre Calamity Jane, hein, et elle détiendrait toutes les lettres que sa maman lui a écrites pendant 25 ans, mais ne lui a jamais envoyées. Alors, est-ce que Jean McCornick est la digne fille de sa mère ou une affabulatrice ? C'est ce que je vous raconterai tout à l'heure.
Et juste après, Stéphane, vous avez déjà fait de l'aquabiking ?
Non, vous savez, moi, je...
Le traditionnel.
No sports.
Ah, no sports du tout. Pas du tout. Eh bien, l'aquabiking, c'est une tendance, mais d'où ça vient ? Bonjour David Castello-Lopez.
Oui, eh ben, vous le saurez, je suis allé voir des...
La moto sur l'eau, c'est ça ?
La moto sur
l'eau, et c'est sous l'eau.
Du vélo dans l'eau.
La moto sur l'eau, c'est du jet ski.
Jet ski, c'est un sport aussi, mais bon, c'est un peu moins éprouvant que de faire du vélo sous l'eau.
Je pensais.
Oui, Stéphane lève les bras comme s'il faisait du parapente.
Oui, vous avez une espèce de. Où on sort de l'eau, c'est pas du ski nautique. Mais c'est de...
C'est du jet ski, c'est ce qu'il vient de dire, non ?
C'est un cerf-volant qui vous tire dans
quel rapport avec la moto sur l'eau ?
Je ne sais pas. Vous savez, parfois...
Vous n'êtes pas très doué en sport nautique ?
Non.
Dans votre villa en Grèce, vous ne proposez pas à vos invités de faire un petit peu de kitesurf, un petit peu de jet ski ? Non, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très...
Ils font farniente
uniquement. Quand on vient chez vous, on se repose.
Voilà.
Olivier Pouls, lui aussi, aime se reposer. Il aime surtout déguster des bons petits plats. Chaque jour, l'histoire d'une recette.
Et c'est vrai que là aussi, le nom de la recette est plutôt intriguant. Je ne sais pas si vous allez comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez déjà goûté du lait de poule ?
Oui, j'aimais pas ça, ma grand-mère faisait ça.
C'est pas possible parce qu'elles font pas de lait les poules.
Hein. Oui, ça,
on va pas nous avoir comme ça.
Ou un œuf de vache,
du lait de poule, mais
du lait de poule, c'est.
Stéphane a déjà les poules.
Les images arrivent un peu trop vite, malheureusement, au cerveau. Olivier, nous découvrirons cette recette tout à l'heure. Mais pour commencer, dépaysement garanti, les amis. Stéphane se met de profil pour nous entraîner en Égypte antique à la rencontre de Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Sous un soleil de plomb en ce 15 août 29 avant Jésus-Christ, trois jeunes enfants défilent à Rome lors du triomphe d'Octave, futur premier empereur de Rome. Mais pourquoi ont-ils les larmes aux yeux ? N'est-ce pas un événement heureux ? Alors non, pour eux, vraiment pas. Enchaînés, ils sont en train de vivre une terrible humiliation, celle réservée aux vaincus. Leurs parents ont été défaits par Octave à la bataille navale d'Actium 2 ans plus tôt. Vous avez deviné ? Il s'agit là des enfants des amants les plus célèbres de l'Antiquité, Marc-Antoine et Cléopâtre. Trimballés dans les rues de la capitale, sous les insultes des Romains, les enfants suivent une statue de leur mère. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, du haut de ses 10 ans, porte justement le même prénom qu'elle. C'est Cléopâtre, c'est l'aînée. Alors elle est l'aînée, certes, oui, mais elle partage cette place avec un frère jumeau. Sélénée, c'est son surnom, la déesse de la lune dans la mythologie grecque. Son frère, c'est Alexandre Hélios, le dieu du soleil. Pourquoi des références aux divinités grecques alors que leur mère est reine d'Égypte ? Tout simplement parce que ces enfants sont nés au carrefour des plus grandes civilisations de l'histoire. Leur mère, Cléopâtre VII, appartient à la dynastie Lagide, aussi dite des Ptolémées, ces pharaons d'origine grecque qui règnent sur l'Égypte depuis le IIIe siècle. Elle descend d'Alexandre le Grand et après avoir été la compagne de Jules César est devenue l'amante du général romain Marc-Antoine. Ensemble, ils règnent sur l'Égypte depuis la somptueuse capitale, Alexandrie. À Rome, Octave, le fils adoptif de César, ne l'entend pas de cette oreille. Et vous connaissez la suite. Pour ne pas tomber aux mains des Romains, les amants se suicident, tandis que Césarion, le fils de César et Cléopâtre, le frère aîné de Sélénée, est égorgé. Voilà donc une orpheline de 10 ans, Cléopâtre Sélénée, qui passe du faste de la belle Alexandrie à l'humiliation romaine. En 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte devient une province de Rome. Et pour couronner le tout, ses parents sont victimes d'une épreuve encore pire que la mort, la damnatio memoriae. C'est la condamnation de la mémoire, l'interdiction du souvenir. Mais elle, elle sait. Elle n'oublie jamais d'où elle vient, quand bien même elle grandit chez l'ennemi. Son éducation est confiée à Octavie, la sœur d'Octave, qui a été mariée à son père, Marc-Antoine. Elle grandit donc aux côtés de ses 2 demi-sœurs. Alors que ses frères sont tôt ou tard assassinés, éliminés par le vainqueur romain, Cléopâtre Sélénée est désormais la seule rescapée de la dynastie des Ptolémées. En 27 avant Jésus-Christ, à Rome, Octave prend le titre d'Auguste. C'est le début de l'Empire romain qui comprend, entre autres, le royaume de Maurétanie. Attention, rien à voir avec la Mauritanie.
Ah, j'aurais fait l'erreur, Stéphane.
Cette région antique correspond à l'ensemble que formeraient aujourd'hui le Maroc et l'Algérie. Auguste nomme roi de Maurétanie Juba, un officier berbère d'une 20aine d'années, fils de l'ancien roi de Numidie, aujourd'hui le Constantinois. Mais bien qu'originaire de la région, celui-ci ne la connaît pas. Son père a été tué lors d'une guerre contre Jules César, qui cherchait à étendre son influence et se battait pour les ressources naturelles d'Afrique du Nord. Juba, prisonnier à l'âge de 3 ans, a été élevé à Rome, chez la femme de l'assassin de son père, Calpurnia. Son parcours ressemble beaucoup à celui de Cléopâtre Sélénée. Maintenant que la Maurétanie a un roi, il lui faut une reine. Sur une idée d'Octavie qui s'est attachée à sa prisonnière, Cléopâtre Sélénée est envoyée auprès de Juba II. Elle a 20 ans, il en a 8 de plus. Si elle ne croit pas avoir hérité de la beauté de sa mère, elle rayonne elle aussi par son intelligence. Les époux règnent sur les Berbères en terre de Maurétanie. Leurs origines différentes, ils en font une force. Elle parle grec et égyptien, mais pas le berbère. Lui est kabyle et parle punique, langue de Carthage, le libyque et le grec. Très éduquée et lettrée, Cléopâtre Sélénée veut assouvir sa soif de vengeance contre Rome. Pas dans la guerre ni dans le sang, non. C'est d'abord une revanche culturelle et religieuse qui est à sa portée. En mettant en avant sa culture égyptienne et grecque, elle s'émancipe ainsi de Rome. Leurs représentations sur les pièces de monnaie témoignent de la richesse et de la diversité de leur culture. Déjà, ils sont les seuls à avoir des monnaies d'or comme les Romains. Ensuite, ils n'hésitent pas à afficher leurs origines. En légende pour lui, il est écrit « Rex Juba », en latin donc, tandis qu'elle fait écrire « Cléopâtre Basilissa » en grec. Elle se fait représenter avec des éléments de chez elle, crocodile des eaux du Nil, fleurs de lotus, corne de la déesse Hathor, grand aigle d'Alexandrie, ou bien avec la coiffe à tête d'éléphant qui symbolise l'Afrique. Dans l'architecture, c'est pareil. Ils font de Césarée, l'actuelle Cherchel en Algérie, la capitale de la Maurétanie, et ils font construire un palais aux colonnes venues d'Égypte et un phare, alors que le seul phare à l'époque est celui d'Alexandrie, bien sûr. Il perpétue le culte égyptien en faisant construire un temple d'Isis. Il développe aussi leur cité du Maroc comme Volubilis, qui voit sortir de terre Forum, temple de Saturne et d'Hercule, des dieux locaux, et Thermes. Et ce n'est pas terminé. C'est vrai que sous le règne de Cléopâtre, Sélénée et Juba II, la Maurétanie est prospère. Grenier de Rome à l'instar de l'Égypte, elle exporte et commerce son blé, son huile d'olive, son garum, l'équivalent du Nouaknam, mais surtout sa pourpre dans toute la Méditerranée. Après avoir voué à Rome une haine persistante, Cléopâtre Sélénée trouve la paix plutôt reposante, enfin, tant qu'elle dure. En épousant Juba, Cléopâtre Sélénée espère perpétuer la dynastie des Ptolémées. Pour cela, il lui faut s'assurer une descendance. De son union avec Juba II naît, après plusieurs enfants morts en bas âge, un fils en 5 ou 6 avant Jésus-Christ. Comment l'appeler ? Eh bien, Ptolémée, tout simplement. Quand disparaît Cléopâtre Sélénée ? Nous l'ignorons. Selon certains, en 5 ou 6 après Jésus-Christ. Selon d'autres, entre 14 et 17, quand le poète Crinagoras de Mytilène publie une épigramme funèbre en l'honneur d'une mystérieuse Sélénée. À moins qu'elle n'ait vécu autant que ses demi-sœurs qui verront 3 empereurs se succéder à la tête de l'Empire romain. En 23, Ptolémée succède à son père à la tête du royaume de Maurétanie. Mais encore une fois, pour des questions de rivalité, de jalousie, le destin de la famille bascule. Quelques années plus tard, Ptolémée est convié à Rome par son cousin l'empereur Caligula. Il accepte l'invitation et franchit la Méditerranée. Mais voilà qu'au cours d'un spectacle de gladiateurs, il ose un terrible affront en portant un manteau de pourpre, la couleur impériale, et d'une pourpre plus belle que celle de l'empereur. Caligula, qui, rappelons-le, est un empereur fou et jaloux, le fait immédiatement assassiner. Ainsi disparaît le fils de Cléopâtre Sélénée, dernier descendant des Ptolémées d'Égypte. Les Romains annexent alors la Maurétanie. Aujourd'hui, les cultures marocaines et algériennes ne gardent quasiment aucune trace de Cléopâtre Sélénée ou même de la présence romaine dans leur région. Dès leur indépendance au XXe siècle, les pays de l'ancienne Maurétanie vont faire débuter leur histoire à l'avènement de l'islam. Au détour de Tipaza, en Algérie, on tombe aujourd'hui sur un tombeau royal magistral, haut comme une petite pyramide pharaonique, mais de forme arrondie. Il s'inspire des architectures funéraires grecques et berbères et illustre l'incroyable diversité culturelle qu'incarna Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Cléopâtre Sélénée, nous avons l'honneur d'accueillir Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Bonjour Françoise Chandernagor, vous êtes romancière, membre, comme vient de le dire Mathieu, de l'Académie Goncourt, et vous publiez L'Homme de Césarée chez Albin Michel, troisième tome, consacré à Sélénée, la fille de Cléopâtre. Une trilogie, et bientôt même une tétralogie, car un quatrième tome va paraître, que vous avez entamé il y a plus de 10 ans, et qui nous permet de découvrir et de pouvoir écrire sur ce personnage. Dans une note au lecteur, vous racontez comment Sélénée Cléopâtre, ou Cléopâtre Sélénée, s'est imposée à vous malgré la grave maladie qui vous a frappé pendant l'écriture de ce livre. Elle vous hantait, c'était pour vous une sorte de nécessité de réhabiliter cette reine oubliée de l'histoire ?
Alors j'aime bien déjà aller rechercher des mal-aimés de l'histoire ou des oubliés de l'histoire, et surtout quand je trouve que c'est injuste de les avoir oubliés. Et souvent, quand je connais leur existence, il me vient des rêves. C'est ce qui m'est arrivé pour Cléopâtre Sélénée. J'ai fait un rêve une nuit, alors que j'écrivais pas le livre bien avant de l'écrire. Je savais qu'elle existait. Je savais que Cléopâtre avait eu 4 enfants, en fait, et qu'il y avait eu une fille survivante. Et une nuit, j'ai fait un rêve et j'avais l'impression que c'était elle, le personnage de ce rêve. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive son histoire. Mais ça impliquait beaucoup de recherches parce que c'est un personnage un peu perdu, quoi, que nous avions perdu.
Et Stéphane le disait, il y a beaucoup de trous dans sa biographie, finalement.
Oui, il y a énormément de trous dans sa biographie, surtout dans la dernière partie de sa vie. En tout cas, le trou principal, c'est qu'on ne sait pas quand elle est morte. Il y a plusieurs hypothèses. La plus répandue est celle qui me paraît la moins vraisemblable. Ah. Je m'en expliquerai, je fais toujours des notes à la fin de mes romans. Et moi, ça m'a amusé de la faire vivre assez longtemps pour qu'elle voie ce qui se passe.
plus intéressant, voilà, évidemment.
C'était plus intéressant.
Ce qui est formidable dans ce personnage et ce qui rend Sélénée fascinante, c'est que c'est l'histoire d'une femme qui est née en Égypte, élevée à Rome et mariée au roi de Maurétanie. C'est ça, elle est au carrefour des civilisations qui continuent de nous fasciner.
Mais on assiste, faut dire, à l'époque, à la première mondialisation de l'histoire. Il n'y a pas de doute qu'autour de la Méditerranée, tout va être absorbé par l'Empire romain. Mmh. Et c'est vrai aussi pour notre mondialisation à nous. Elle est faite, pour l'instant, sous le signe de l'Amérique, hein, soyons clairs. Nous avons tendance à emprunter de plus en plus de mots anglais, à suivre les batailles idéologiques comme les Américains, alors que notre histoire n'est pas la même, etc. Donc on est très imprégné de culture américaine. Les séries que nous regardons sont américaines. Enfin, eh bien, là, c'était pareil. Il y avait une mondialisation, mais sous une forte empreinte romaine. Il est vrai que Sélénée et son mari ont essayé de faire vivre quelque chose d'encore grec et puis berbère, mais tout de même, ils ont fini par devoir faire un amphithéâtre et faire venir des gladiateurs, vous voyez. C'est comme chez nous, quoi.
Notre thématique du jour, c'est la transmission mère-fille et au-delà de ça, leur similitude. Sélénée, elle a quoi de Cléopâtre? Stéphane disait son intelligence, physique en tout cas.
En tout cas, elle n'a pas son nez, c'est une chance pour elle. Parce que le nez de Cléopâtre, elle a un nez busqué, quelqu'un de son papa, qui est horrible. Hein. De face, ça va mieux. Bon, mais nous, pour Sélénée, nous n'avons que deux choses, enfin des monnaies. Alors où elle est de profil, mais là on voit bien qu'elle n'a pas le nez de sa mère, tant mieux pour elle, hein. Elle a un petit nez bien. Bon. Et d'autre part, une représentation, on ne sait pas si c'est un portrait, mais à Paris, dans le trésor de Boscoréal, qui a été trouvé près de Pompéi, elle est plutôt... elle n'est pas laide, c'est curieux. Alors elle porte la dépouille d'éléphant en tant que reine d'Afrique, et en la voyant de face, elle a une figure de chat-siamois un peu... oui, c'est amusant. Elle ne ressemble pas du tout à sa mère, en tout cas. Pas du tout.
Sélénée a été orpheline, on l'a dit, à 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a gardé au fond de sa mère? Est-ce qu'elle a eu le temps déjà de... si j'ose dire, de s'imprégner de Cléopâtre mère ou pas, finalement?
C'est difficile à dire, parce que Cléopâtre et Marc-Antoine étaient toujours en guerre, enfin... et Cléopâtre suivait, hein, elle assistait même à des réunions d'état-major. Elle était un souverain, et pas une reine... elle était une reine régnante. Et donc, elle était souvent partie. Donc, de temps en temps, elle passe voir les enfants à la nursery, quoi.
Oui, comme ça.
Et c'est puis
pas,
voilà,
c'est
comme
pas
ça.
Un lien très fort.
Mais elle a une haute idée de sa mère, quand même, et de la grandeur de la civilisation égyptienne. Alors, Sélénée parle égyptien comme sa mère, parce que ça, c'était nouveau. Pendant très longtemps, les souverains grecs d'Égypte n'ont pas voulu parler la langue des indigènes. Et puis, Cléopâtre a été la première à parler égyptien, et elle parlait 9 langues. Elle parlait toutes les langues de la région.
Et Sélénée est élevée par une ex-femme de son père. Est-ce qu'elle a trouvé en Octavie une sorte de mère de substitution?
Oui, alors Octavie est la sœur d'Auguste. Elle est toute douceur et toute bonté et toute intelligence. C'est un très beau personnage à qui je voulais rendre justice aussi, parce que l'histoire l'a beaucoup effacée. Elle est autrement intéressante que Livie, la femme d'Auguste. Oui. Du reste, elle se détestait. Chacune voulant l'influence sur le grand homme. Et Octavie avait elle-même 5 enfants, dont 2 de Marc-Antoine. Parce qu'à l'époque, les gens, il y a beaucoup de familles recomposées, parce qu'il y a beaucoup de veuvages et énormément de divorces. Donc, elle avait elle-même 5 enfants. Elle avait recueilli, avant de recueillir Sélénée, un autre enfant de Marc-Antoine. Et elle avait recueilli 2 petits otages, fils d'Hérode, qu'elle a élevés. Elle s'occupait beaucoup de sa nièce, Julie, la fille d'Auguste, qui détestait Livie, sa marâtre. Et comme elles habitaient l'une à côté de l'autre, elle venait tout le temps chez sa tante, qu'elle adorait, et puis retrouvait toute la bande des jeunes, et même les fils de Livie, Tibère, qui va être empereur par la suite, et Drusus. Ils ont tous le même âge, ces enfants. Ils venaient tous jouer dans le même jardin, quoi. Et j'avais trouvé, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre. Quand j'ai découvert qu'il y avait cette bande d'enfants, dont beaucoup vont devenir célèbres, vont devenir des souverains, vont devenir des généraux, vont devenir... je me suis dit, c'est amusant de faire revivre cette petite bande.
Alors, vous voyez, si on récapitule que Sélénée a vu son père agoniser, ses frères assassinés par les Romains, est-ce que ces traumatismes peuvent expliquer qu'elle est devenue finalement résiliente?
Je ne sais pas si elle est résiliente. Elle l'est, à mon avis, moins que son mari, Juba, à qui toutes ces choses sont arrivées plus jeune et qui ne se souvient pas. Lui, il est résilient et il a trouvé à s'investir dans la culture et il va être le premier encyclopédiste parce qu'il ne va pas être seulement roi, il va écrire énormément de livres sur des tas de sujets, histoire de la peinture, histoire du théâtre, histoire des langues. Il va être un explorateur, il va découvrir Essaouira, les îles Purpuraires, puis les îles Canaries, Agadir, les îles Canaries. Il va descendre la côte parce qu'il pense qu'on doit pouvoir contourner l'Afrique. Oui, mais c'est plus gros qu'il ne croit. Ah oui. Il pensait que c'était petit comme continent. Lui est un vrai résilient. Elle, non. Elle a par moments des moments de réminiscence et qui déclenchent des, ce qu'on pourrait appeler des stress post-traumatiques. Quoi. Elle, tout d'un coup, elle devient presque folle. Hein. Elle ne sait plus où elle en est. Elle doit faire beaucoup d'efforts pour être vraiment résiliente.
Mais ce que vous racontez dans votre livre, L'homme de Césarée, vous racontez le mariage. Ça s'ouvre d'ailleurs par le mariage. Et c'est assez violent. Demain, après-demain ou la semaine prochaine, ce n'est pas une fiancée de 20 ans qui épousera le roi de Maurétanie. Celle qu'il va le mettre dans son lit est une petite fille de 10 ans. Un mariage, non. Un viol. Vous appelez un chat un chat. Hein. La notion de consentement n'existait pas à l'époque.
Oh ben, elle a, pour les femmes, elle n'a pas existé jusqu'au XXe siècle, on peut dire. Eh oui. Enfin, encore au XIXe siècle, les filles, on ne leur demande pas trop leur avis. Il y a un beau parti, bah, tu vas l'épouser. Et c'est vrai de la bourgeoisie, mais c'est vrai du monde paysan. Moi, j'ai connu un monde où les gens ne se choisissaient pas. On disait, dis donc, le gars, là, il a des champs à côté de chez nous. Hein. Ce serait bien si vous vous mariez. Hein. Donc, les femmes ne choisissaient pas. Mais ce qui se passe pour Sélénée, c'est que juste avant le mariage, elle est ramenée par un événement fortuit, tout d'un coup replongée dans la prise d'Alexandrie. C'est 10 ans, le moment où on la cache, où elle étouffe dans une cachette et où un soldat romain l'en tire avec violence. Et il ne la viole pas, mais il la touche, elle n'est pas habituée, il la touche nue, enfin tout ça. Et tout d'un coup, elle se retrouve dans le noir avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et tout d'un coup, elle revit cette séquence dans sa cachette, dans le noir. Voilà, si c'est un viol, c'est un viol parce que tout d'un coup, elle redevient la petite fille de 10 ans.
Comment on pourrait décrire la condition de la femme à cette époque dans une famille impériale ?
C'est particulier parce qu'elles sont instruites autant que leurs frères. Les filles de la famille impériale, et c'est déjà vrai du temps d'Auguste, toutes ses nièces et tout, reçoivent une éducation pareil à celle des garçons. Elles sont extrêmement cultivées. Et puis, elles sont assez libres sexuellement. Les dames du grand monde se privent pas trop d'avoir des amants. Hein. Et on voit les poètes comme Ovid, qui est de cette époque, écrire l'art d'aimer, où sont décrites notamment toutes les positions. Hein. Ça vaut le livre qu'on lisait dans ma jeunesse, un petit ouvrage danois, qui était un petit livre rouge comme celui de Mao, mais enfin, c'était pas le même contenu, et qui s'appelait Les 32 positions. Et donc... Oui, bon, il n'y en a pas 32, c'est des variantes, allez.
Vous m'avez offert le Kamasutra,
c'est vrai, pour l'année prochaine, pour le prochain anniversaire, c'est fait.
Mais bon, les dames étaient tout à fait instruites et assez libres, mais tout de même, elles étaient réduites à être des ventres. C'était quand même paradoxal de leur donner cette culture, cette relative liberté, et puis après de leur dire, dans le mariage, c'est fini, vous faites des enfants, et puis c'est tout. Hein, et le maximum d'enfants.
En tout cas, on peut le dire, François Chandernagor, par vos romans et vos ouvrages, vous avez dignement représenté les femmes. Vous avez d'ailleurs, je rappelle, publié une anthologie remarquable, La poésie féminine. J'espère qu'il faudrait la ressusciter. Merci en tout cas, François Chandernagor. En attendant le prochain tome, vous lisez le passionnant L'homme de Césarée qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Voilà. Et vous connaissiez Cléopâtre, maintenant vous connaîtrez sa fille Cléopâtre, Sélénée. Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans en faire toute une histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire de la fille de Calamity Jane. En tout cas, celle qui prétendait ou qui... disait qu'elle était sa fille.
Oui, en effet. Alors, mystère et boule de gomme. Mais en revanche, s'il y a une femme cow-boy qu'on connaît et dont le nom sort du chapeau, une seule, c'est bien Calamity Jane. Hein. Martha Canary, de son vrai nom, elle est née le 1er mai 52 ou 56 ou 53 à Princeton en Missouri, on n'en sait rien. En tout cas, on voit bien à quoi elle ressemble. C'est une sorte de garçon manqué, un croisement entre Lucky Luke et Billy the Kid. Il y a une très célèbre photo d'elle où elle est là en tenue d'homme, hein, pantalon en daim, chemise d'homme, ceinturon, veste d'indienne à franges, coiffée d'un Stetson avec une Winchester à la main et un holster dans lequel elle portait le Colt de son ami Bill Hickok, justicier tireur d'élite, un sacré personnage. Alors, comme elle a participé à pas mal de shows sur la conquête de l'Ouest, on distribuait sa biographie. Et il fallait distribuer, bien sûr, une biographie un petit peu sexy, donc largement romancée, donc pleine de mensonges, de sorte qu'on ne sait pas au juste avec Calamity Jane démêler le vrai du faux. Figurez-vous donc, alors, cette solitaire, la co-girl, elle aurait eu une fille, un fils qui est mort en très bas âge, et qui s'appellerait Jenny, cette fameuse Madame Jane McCormick, là. Elle ne l'a pas élevée, mais elle lui aurait écrit tous les jours, et les lettres de Calamity Jane à sa fille sont des succès éditoriaux depuis des années. Hein. Alors, pourquoi elle a fait adopter cette fille ? Parce qu'elle avait une vie trop compliquée. Hein, donc, en 1874, elle aurait fait adopter cette fille par le capitaine Jim O'Neill, issu d'une grande famille aristocratique. En tout cas, c'est ce que raconte Calamity dans ses lettres. Elle voulait que sa fille ait une bonne éducation, une vie tranquille et qu'elle ne soit pas à cheval toute la journée. Alors, elle disparaît complètement, mais tous les soirs, au coin du feu de camp, pour Lonesome Cowgirl écrit à sa fille, hein, dans un vieux carnet. Alors, qu'est-ce qu'elle lui raconte ? Elle lui raconte que son papa, c'est Billy Cock, le fameux justicier, qui avait 15 ans de plus qu'elle. Elle raconte que c'est lui qui l'aurait baptisé Calamity Jane. En fait, on pense que c'est pas du tout vrai, que ça serait un capitaine à qui elle aurait sauvé la vie, qu'il avait appelé comme ça. Bon. Alors, quelles sont ses journées ? Voyez-vous, le matin, le jour, elle galope de camp en camp à travers les territoires Sioux. Et la nuit, au coin du feu de camp, elle écrit à sa fille. Et dans la première lettre, elle écrit avoir parcouru le jour même à cheval, 60 miles jusqu'à la poste. Ouais. C'est énorme, ça fait quasiment 100 km à cheval. Hein. Et sa lettre se conclut par « Demain, je vais descendre la Yellowstone Valley, juste pour l'aventure et les sensations. Hein. » Voilà, c'est ça, c'est sa vie quotidienne. Elle se balade toute seule dans la Yellowstone Valley. Bon, il y a des milliers de Sioux dans cette vallée. Je n'ai pas peur d'eux. Ils pensent que je suis cinglée et ils ne me font jamais de mal. Et puis, ça, c'est vrai, pour le coup, elle a été à un moment éclaireur de Custer. Alors, elle raconte, elle a vu la bataille de Little Bighorn. Je suis allée sur le champ de bataille après la bataille de Custer et je ne veux plus jamais voir un tel spectacle. Les squaws avaient coupé bras et jambes aux soldats morts, puis coupé les têtes et arraché les yeux. Custer avait ravagé un village indien, ce qui fait qu'on ne peut pas les blâmer de s'être vengés de cette façon. Alors là, vous voyez, c'est une lettre qu'elle adresse à sa fille qui a quand même 6 ans.
Ah oui.
Alors, on a quand même là un léger petit doute. Alors, par ailleurs, elle a fait un concours de tir avec des cow-boys, elle les a tous battus. Pour sûr, ça m'a donné la grosse tête, écrit-elle. Elle a conduit la diligence, elle saute du siège du conducteur, hein, en marche sur son cheval. Avec Billy Cock, ils ont abattu toute une bande de malfrats qui avaient volé une cargaison d'or. Bon, ce Billy Cock, ton papa, ma pauvre amie, a été tué par les Indiens. Oui, alors, donc, tout au long de ses lettres, c'est vraiment aventure sur aventure. Tout ça est quand même un petit peu trop beau pour être vrai.
Donc les lettres sont fausses.
Alors, elle promet, c'est un peu ce qu'on pense. Hein. Elle promet à sa fille qu'elle ira la voir. En fait, elle raconte sa vie. C'est vrai qu'elle a fait tous les métiers. Hein. Elle a été infirmière, conductrice de diligence, éclaireuse. Elle a fait du convoyage d'animaux. Elle a fait de la prospection. Elle a été lingère dans des bordels, cuisinière, infirmière, dit-elle. Un jour, j'ai du poulet à manger et le lendemain, des plumes. Et ben voilà, la vie de Calamity Jane. Bon, elle a aussi été prostituée, mais ça, évidemment, elle ne le raconte pas dans les lettres. Elle raconte aussi que chaque nuit, elle s'endort avec la photo de sa fille contre ses lèvres. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a toute une quantité d'historiens américains qui pensent en effet qu'elle n'était pas du tout sa fille, hein, et que Calamity Jane était analphabète, elle aurait été incapable d'écrire. Alors, je cite ces messieurs, « Nous ne croyons pas du tout au couple Calamity Jane-Hickok. Nous pensons qu'ils n'ont jamais été mariés, qu'ils n'ont même jamais été liés, que Jane Hickok n'était la fille d'aucun d'entre eux et que le certificat de mariage, le journal et les lettres et tout le reste sont un canular complet du début à la fin. » Et ben voyez-vous comme quoi, heureusement qu'en grammaire,
vocabulaire, on a le conditionnel. Ça permet de raconter des histoires qui ne sont pas toujours vraies, mais qui sont bien jolies quand même. Mmh. Et notamment celle de la fille élevée par un aristocrate anglais de Calamity Jane.
Mais il y a des gens qui pensent que c'est... Je ne parle pas de la fille, de savoir si c'est sa fille ou pas sa fille, mais que les lettres sont vraiment de Calamity Jane.
Oui. Il y a des gens qui le pensent, bien sûr, et dont d'ailleurs un comédien français qui s'appelle du nom de Monroe, qui il y a une quinzaine d'années a trouvé d'autres lettres qui ont été attribuées également à Calamity Jane.
Ah bon.
Ah bah écoutez, ça reste... C'est beau les mystères en histoire, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre.
Les mystères de l'Ouest. Merci beaucoup Clémentine.
Et vous restez avec nous Clémentine, puisqu'après Calamity Jane, nous allons découvrir Calamity Bern.
Calamity Clémentine.
Oui mais ça sonne moins bien Stéphane.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
L'heure de l'affrontement fratricide a sonné pour nos deux historiens émérites. Le temps que Clémentine se chauffe la voix en chantant Lili Marlène.
Werden wir uns wiedersehen bei der Kaserne, werden wir stehen.
Oui, vous êtes chaude, nous pouvons jouer à Bern to be alive.
Comment vous dites que vous êtes chaude?
Elle est chaude, la voix de Clémentine, bien sûr. Calamity Clem, face à Calamity Bern. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. 1797. Alors attention, parce que ça, c'est quelque chose que nous avons évoqué dans notre émission. Nous allons voir si vous êtes attentif à ce qui se dit ici. Oui, c'est pas votre période fétiche.
Ah non,
1797, dans un faubourg de Londres, naît Mary Shelley. On lui doit le roman épistolaire culte Frankenstein ou le Prométhée moderne. Un an après la mort de la dramaturge anglaise, son fils s'autorise à ranger le bureau de sa maman dans un morceau de tissu enveloppant un poème écrit par son père. Il trouve un morceau de poumon. C'est celui de son papa, justement. Vrai ou faux?
Quelle horreur!
Il est gentil, le papa, d'avoir pensé
un petit cadeau.
À demander qu'on lui enlève un morceau de poumon pour le laisser à son fils. Le papa était mort d'un problème poumon. Il avait une...
Son père souffrait de la tuberculose. C'est une petite info que je peux vous donner, mais est-ce qu'elle va vous guider vers la bonne réponse? C'était pas sûr.
Est-ce que Mary Shelley, elle a quand même imaginé être fait de chair morte? Il y a quand même dans cette époque d'amour, de littérature gothique, qu'on prenne un petit bout de poumon, une relique, c'est pas... Oui. Mais qu'est-ce que ça donne un poumon tout desséché?
C'est tout.
Un brocoli.
Et puis, il l'aurait jamais reconnu. Ou alors, il aurait fallu qu'il y ait un petit papier disant « Ceci est le poumon de mon défunt mari ».
C'était l'époque où on adorait les reliques et les...
Certains adorent toujours ça. Hein.
Oui, je dirais oui.
Vous avez... perdu.
Eh bien, c'est faux, mais c'était un piège, puisque, à peu de choses près, c'était vrai, c'était le cœur de son père.
Le cœur de son père, vous ne savez rien, tout simplement.
C'est le cœur de son père. En 1822, le mari de Mary Shelley meurt noyé. Comme il avait la tuberculose, son cœur ne brûle pas pendant la crémation. Il est récupéré et donné à son épouse. Elle le gardera 30 ans dans son bureau. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Partons pour le 15e siècle. Évoquons la mémoire de Charles le Téméraire. Sa dernière bataille a été particulièrement violente. On va le retrouver 2 jours après sa mort, le crâne fendu jusqu'aux dents par une hallebarde, les joues rongées par les loups. On va l'identifier parce que ça faisait 1 an qu'il ne s'était pas coupé les ongles. Vrai ou faux ?
Non, tout ce que vous avez dit est vrai, je pense, jusqu'à cette histoire d'ongles, et où il aurait fallu que les loups dévorassent également son visage pour qu'on ne le reconnût point. Oui.
Il avait une joue arrachée par un...
Oui, mais je pense qu'il était quand même identifiable, non ? Et cette histoire d'ongles, j'ai jamais entendu ça.
Et donc vous dites quoi ? Est-ce qu'on l'a reconnu, oui ou non ?
Non, pas ses ongles, pas ses ongles qui avaient poussé trop loin.
Vous avez...
On l'a bien reconnu grâce à ses ongles. Il ne se coupait plus les ongles depuis la bataille de Morat, 1 an auparavant. On l'a reconnu également grâce à une bague. Malheureusement, pour l'instant, ça fait toujours 0 partout. Mais rien n'est encore joué, Stéphane. C'est pour vous, cette question numéro 3. Quand on dit avoir des yeux de lynx, en fait, ça n'a rien à voir avec le félin. C'est une référence à un personnage mythologique qui avait la capacité de voir à travers les murs. Vrai ou faux?
Mais c'est le pilote, c'est Jason et les Argonautes qui partent en colchide chercher la toison d'or, et le pilote du bateau s'appelle Lynx et exactement. Il est connu pour sa vision extrêmement perçante.
Je ne suis pas sûr qu'il voyait à travers le mur, mais c'est vrai qu'on appelle Lynx non pas à cause de l'animal, mais à cause d'un personnage.
Ouais. Vous avez... gagné.
C'est une excellente réponse, Stéphane. C'est une référence à Lyncée, un complice de Jason, celui-là même qui voulait conquérir la toison d'or. Il pouvait en effet voir à travers les murs, mais aussi à travers le sol. Du coup, il en profitait pour remonter des sacs de cuivre quand il en voyait sous ses pieds. Il a été tué par Castor et Pollux parce qu'il voulait lui voler un troupeau de génisses. On est peu de choses. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Trouvez la citation de Jean Lafontaine. On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise. Partout, la liberté affronte les forces du mal, mais rien n'est plus fragile qu'un idéal.
C'est la première, pour moi, qui me paraît le plus ressembler à Dieu Lafontaine.
Mais non, c'est la deuxième. Lafontaine, c'est...
Vous avez gagné!
C'est bien vous qui avez gagné, Clémentine, et non
j'aurais
pas
dit la
Stéphane.
Deuxième.
Ouais. Donc c'est effectivement ça, on rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. C'est dans une fable qui s'appelle L'Horoscope. Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise. C'est Montesquieu.
Ah oui, c'est ça, je savais que j'avais entendu.
Bien sûr. Et partout la liberté affronte les forces du mal, mais rien n'est plus fragile qu'un idéal, c'est...
Partout la liberté affronte les forces du mal.
C'est quoi, Albator, non?
Mais non, c'est... Vous n'avez pas reconnu?
Non.
Enrico Macias.
C'est Enrico.
Dans le titre, Au nom des droits de l'homme, si vous êtes fan de Jean de La Fontaine, rendez-vous ce soir sur France 3, Secret d'Histoire, présenté par le fabuleux Stéphane Bern. C'est à 21h05.
Oui, c'est comme chaque lundi, oui. Oui,
exactement, mais je préfère le rappeler. Parce
c'est très gentil, merci.
Voilà, si jamais des gens l'oubliaient.
Oui. Ben, et puis, il y a des fables dites aussi par Fabrice Lucchini.
Dans votre émission?
Ah oui, c'est quelque chose, oui.
Et maintenant, la question que la France attend. La question qui va vous départager, la question 5, question de rapidité. Toucher le pactole, vous savez d'où vient l'expression, c'est un fleuve de l'Antiquité gorgé d'or. Midas, qui avait demandé que soit transformé en or tout ce qu'il touche, va se rendre compte qu'il va être impossible pour lui de manger. Il va rompre le sort en se nettoyant dans le pactole. Mais aujourd'hui, dans quel pays se trouve le pactole? 4 propositions. En Grèce, en Turquie, en Macédoine du Nord, ou en Macédoine de légumes.
En Macédoine.
Turquie, bonne réponse de Clémentine Portier-Kaltenbach.
Je pensais qu'il y avait un piège et j'ai dit Macédoine.
Oui, non. Il n'y avait pas de piège parfois. Ça. Sur la question de rapidité, je ne mets pas de piège parce que déjà qu'il faut être rapide. Le fleuve fait 25 km et prend sa source sur les pentes du Mont Mol, dans l'ouest de la Turquie. Victoire de Clémentine, bravo.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter autour de 3 personnages féminins aujourd'hui.
Et pour cause, Stéphane, cet après-midi, on rend hommage aux dignes héritières.
T'es bien la fille de ta mère.
Qui, moi?
Non, elle. Après vous avoir raconté le destin de Sélénée, la fille de Cléopâtre, je vais vous conter celui d'Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie, qui s'est montrée, vous allez voir Mathieu, à la hauteur de son illustre patronyme.
Elle aussi, Stéphane, a su se hisser à la hauteur de son glorieux patronyme. Elle s'appelle Lily Rose Depp. Vous la retrouvez à l'affiche de films, dans des pubs Chanel et bien sûr en 4x3 dans la chambre d'Olivier Pouls. Je vais vous brosser son portrait à 99% vrai, un portrait que David m'a conseillé d'attaquer sous l'angle
sexy porno.
Ça m'a semblé pas pertinent vu l'heure. Désolé David, je te passerai des photos en secret.
Bon, avant de se rincer l'œil, on va quand même se cultiver, Mathieu, avec justement nos fidèles chroniqueurs, David Cassel-Lopez, qui remonte aux origines de quelque chose qui fait partie de notre quotidien.
Oui, aujourd'hui, c'est un sport qui vous tient à cœur, visiblement,
non,
Stéphane.
Non, parce qu'il ne fait pas partie de mon quotidien, mais ça m'intéresse de connaître l'origine de l'aquabike.
Tout à fait, l'aquabike qui consiste à faire du vélo dans l'eau.
Voilà, oui, c'est mais ça, qui a simplement eu l'idée la première fois de mettre un vélo dans l'eau?
Est-ce que ça serait pas un mec qui est juste tombé dans l'eau à vélo et qui s'est dit que...
Peut-être.
Non, je
ne pense pas.
Ça rouille en plus.
Olivier Pouls, chaque jour l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, une recette franchement qui met pas l'eau à la bouche, hein, le lait de poule.
Oui. Vous connaissez les œufs de vache, peut-être, non?
Oui, bien sûr, évidemment.
Il y a du lait de poule. Et vous allez voir, en fait, c'est très bon. Et c'est un dessert qui est un peu en train de revenir à la mode. Il y a quelques chefs qui s'y essayent. Quand c'est bien fait, c'est vraiment pas mal.
On verra si Stéphane kiffe ça ou pas. Kiffer, justement, d'où ça vient, Stéphane?
À votre avis.
Enfin, moi, ça vient de l'arabe.
Oui, mais
le kiff.
Oui.
Restez avec
vous.
Ça sera
tout
légal, quand même, Stéphane.
Vous inquiétez pas, avec moi, tout est
tout
convenable.
Tout est légal, bien sûr. Tout de suite. Une fille d'eux qui a fait honneur au nom illustre de ses parents, Stéphane Bern nous raconte, Irène Joliot-Curie, la fille de... Ah oui, vous avez deviné.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Tut, tut. Le vacarme des obus s'est arrêté. Des voiturettes circulent maintenant entre les corps qui jonchent les champs de bataille du nord de la France. Équipées de postes radiologiques, elles permettent de soigner les blessés directement sur les fronts de la Grande Guerre. C'est à la physicienne et chimiste d'origine polonaise, Marie Curie, que la France doit cette initiative. De l'une de ces petites Curies, comme les surnomment les militaires, descend une jeune manipulatrice. C'est ici qu'il faut opérer. Du haut de ses 17 ans, elle n'éprouve aucune timidité à donner des ordres aux médecins. L'éclat d'obus est fourré là. Alors qu'à son âge, les filles pensent aux garçons et aux soirées de bal, Irène assiste sa mère et sauve des vies. Irène Curie est née en septembre 1897 de l'union de Pierre et Marie Curie. Elle grandit gaiement dans le Paris de la Belle Époque. Le matin, elle se rend à l'école, où elle déteste la philosophie et le latin. Ce qu'elle aime, c'est les sciences et le sport. Randonnée dans la forêt, vélo, natation, gymnastique, voilà qui est assez détonnant pour son temps. Câlinée, choyée, elle a du mal à accepter de partager l'attention quand sa petite sœur Ève naît à la fin de l'année 1904. 2 ans plus tard, la vie heureuse de la famille Curie bascule. Alors qu'ils traversaient la chaussée pour rejoindre le quai de Conti à Paris, Pierre Curie glisse sur le macadam trempé et se prend d'une calèche en plein fouet. Le choc est fatal, la perte est immense. Pour Marie Curie, l'amour de sa vie, pour Irène, son père adoré. Le chagrin est le même lorsque disparaît, quelques années plus tard, son grand-père paternel. Compagnon de jeu qu'il ouvrait sur la culture, les sciences et la beauté du monde, le docteur Curie était un ancien communard qui l'initiait aussi aux idées socialistes. La famille est de gauche et le revendique. Irène suit les cours de la coopérative d'enseignement. En fait, ce sont les parents eux-mêmes qui donnent les leçons. Marie Curie en physique, Jean Perrin en chimie, Paul Langevin en mathématiques. En 1911, à 14 ans, Irène accompagne sa mère à Stockholm pour l'obtention de son second prix Nobel qui vient consacrer sa découverte du radium et du polonium. Irène ne le sait pas encore, mais elle se retrouvera à cette même place dans quelques années, 24 ans plus tard précisément. Avant cela, elle obtient son bachot, puis rejoint l'Institut du radium que sa mère a monté de toutes pièces après la mort de Pierre. Irène Curie poursuit les travaux de sa mère en effectuant sa thèse sur les rayons alpha du polonium. Après Pierre et Marie, le couple scientifique de la famille, c'est Irène et Marie. Au milieu des pipettes et autres Beck Bunsen, Irène croise un jour le regard d'un séduisant préparateur de 25 ans. Il s'appelle Frédéric Joliot et a été recruté sur recommandation de Paul Langevin. Ironie du sort, c'est donc le nouvel amant de sa mère qui fait l'entremetteur. Le coup de foudre est immédiat. Irène a 28 ans, lui en a 25. Ils se marient en octobre 1926. Abandonner le nom de ses parents, impossible pour Irène. Déjà, car elle veut garder cet héritage qui lui est cher, mais aussi pour des raisons féministes. En août 1889, Hubertine Auclair, pionnière du mouvement de libération des femmes, les encourageait à garder leur nom de jeune fille pour œuvrer à leur émancipation. Irène Joliot-Curie donc, et Frédéric Joliot, mais qui se fait appeler Joliot-Curie aussi, ont 2 enfants, Hélène en 1927 et Pierre en 1932. C'est surtout Frédéric qui s'occupe d'eux. Irène est contrainte de séjourner de longs mois dans les Alpes pour soigner sa tuberculose dans des sanatoriums. En janvier 1934, le couple découvre la radioactivité artificielle, c'est-à-dire la possibilité de rendre radioactif un élément qui ne l'est pas. Ils deviennent ainsi des pionniers de la physique nucléaire. Vous savez, cette science qui a changé le monde pour le meilleur, avec la radiothérapie qui permet de traiter le cancer, et pour le pire, avec la bombe atomique dont nous connaissons les dégâts. Ils obtiennent ensemble le prix Nobel de chimie l'année suivante. Irène et Frédéric Joliot-Curie s'inscrivent ainsi dans la droite lignée de Pierre et Marie Curie. Irène ne manque pas de le rappeler dans son discours à Stockholm devant l'Académie Nobel réunie. La création artificielle de radioéléments ouvre un nouveau domaine à la science de la radioactivité et constitue ainsi le prolongement de l'œuvre de Pierre et Marie Curie. Marie Curie n'assiste malheureusement pas à la consécration du travail de sa fille, ayant succombé quelques mois plus tôt à une leucémie. De sa mère, Irène disait aimer son féminisme intransigeant, sa révolte contre l'état social actuel, son désir passionné de voir se réaliser une entente pacifique entre les peuples. Toutes deux sont des scientifiques engagés, mais Irène va encore plus loin. En 1934, les Joliot-Curie, membres de la SFIO, se mobilisent avec la gauche contre la montée des fascismes. Irène défend le droit au travail féminin. Quelle fierté lorsqu'elle est élue membre du gouvernement du Front populaire en 1936. sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, elle est avec deux consoeurs la première femme à siéger dans un gouvernement français. Cette nomination, elle dit l'avoir acceptée pour faciliter l'entrée des autres femmes au sein du gouvernement. Intellectuellement brillant, le couple performe aussi en couverture des magazines. En juin 1936, Paris Soir Magazine titre en première page « Une femme dans le gouvernement », le beau roman de la famille Curie, dynastie de l'intelligence. Irène est fière d'être comparée à sa mère. Comme elle, la coquetterie ne l'intéresse pas. Il en va de même pour son époux Frédéric, qui n'a que faire des standards de virilité. Ils sont vrais, ils sont nature, ils font du sport, natation, tennis, ski. Quand ils ne sont pas au labo, les jolies écuries sont dehors. Bon, aussi dans des amphis à donner des cours ou à recevoir de prestigieux prix comme la Légion d'honneur. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage pour la paix, multipliant les conférences à travers la France avant d'entrer en résistance. En 1946, Irène prend les rênes de l'Institut du Radium. Si elle poursuit son engagement auprès des femmes, elle-même continue d'être victime du sexisme ambiant, de son milieu et de son temps. L'Académie des sciences ne lui aura jamais ouvert ses portes. Irène Joliot-Curie meurt à Paris en mars 1956 d'une leucémie causée par une surexposition au rayonnement radioactif. Telle mère, telle fille, dans la vie, mais malheureusement aussi dans la mort.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Irène Joliot-Curie, nous sommes avec l'historienne Claudine Monteil. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Merci d'être
bonjour
avec nous.
Bonjour Claudine Monteil, vous êtes écrivaine, historienne et diplomate. Vous publiez chez Calmann Lévy « Marie Curie et ses filles », consacrée, comme son nom l'indique, à Marie Curie et à ses deux filles, Irène et Ève. Votre ouvrage est sous-titré « Libre, géniale, pionnière, inspirante, puissante ». Elles sont tous là à la fois, les membres de, j'allais dire, de l'écurie Curie ou de la...
Les femmes de l'écurie Curie sont toutes à la fois. Oui, Stéphane Bern. Elles sont libres d'abord parce qu'elles décident, elles sont libres de choisir leur vie sur dans des domaines qui sont jusqu'alors réservés aux hommes. Eh bien, elles n'hésitent pas. Elles décident, c'est ainsi. Irène fera de la recherche scientifique et Ève, de son côté, sera une des premières, si ce n'est la première grande diplomate française et en plus géostratège, puisqu'elle a été la conseillère du premier secrétaire général de l'OTAN. Et j'ai vu ces dossiers, je peux en témoigner.
Mais quelle influence a eu Marie sur sa fille Irène? Parce que la science, on l'a évoqué, s'est imposée très tôt à Irène Joliot-Curie. Oui. On imagine que sa maman, prof de physique, ça l'a aidée. Elle l'a poussée, c'est un choix volontaire ou au fond, les chiens font rarement des chats?
Alors, en fait, il y a deux éléments. Il y a d'abord la mort de Pierre Curie en 1906 et Irène a 7 ans. Donc, la place d'Irène devient d'autant plus importante parce que la petite Ève n'a qu'un an et demi. C'est un lien fusionnel secret entre Marie et Irène. Et Irène n'arrête pas de supplier sa mère de lui envoyer par lettre des problèmes de mathématiques et de physique. À un moment où peut-être on a envie de jouer, de s'amuser.
Oui.
Et en réalité, Irène est également très littéraire parce que Marie Curie est très littéraire. Mais donc, c'est véritablement... à une relation fusionnelle, c'est un couple en quelque sorte qui se crée entre mère et fille.
Vous utilisez le mot couple, c'est quoi le moteur d'Irène justement? C'est de faire mieux que sa mère ou de faire en équipe avec sa mère quelque part, de poursuivre son œuvre?
Le moteur d'Irène, ça apparaît assez clairement, c'était vraiment de poursuivre l'œuvre de sa mère, c'est-à-dire cette passion pour la recherche scientifique, cette passion de découvrir encore. Et d'ailleurs, Irène va dépasser sa mère.
Oui,
donc, c'est vraiment c'est de cette manière que ça fonctionne.
Il y a une chose quand même, c'est vrai que Irène Joliot-Curie reçoit son prix Nobel en 1935. Il y a des fâcheux quand même à cette époque-là qui disent que c'est la fille de... Il faut dire que Marie Curie, c'est la seule femme, je crois, qui a eu deux prix Nobel.
Et entre nous, il n'y a pas eu beaucoup d'hommes qui ont eu deux prix Nobel.
Non, mais c'est vrai qu'on la renvoie dès cette époque à son statut de fille de...
Mais
c'est
pas
injuste.
Grave, parce qu'elle est dans son obsession de la recherche scientifique. Mmh. Elle est dans le laboratoire, dans l'Institut du Radium. Elle travaille, elle effectue des recherches et elle ne s'intéresse pas au qu'en dira-t-on. Oui. Elle ne s'intéresse pas.
Mais elle n'a pas la notoriété de sa mère. Elle n'est pas au Panthéon, elle n'est pas...
Non, elle n'a pas la notoriété de sa mère, elle n'est pas au Panthéon, mais vous savez, il y a presque autant en France de collèges et de lycées Irène Joliot-Curie. Oui, oui, oui. Qu'il y en a de Marie Curie.
Et politiquement aussi, Stéphane a dit dans son récit, Irène Joliot-Curie a joué un rôle en devenant en 1936 une des premières femmes à siéger au gouvernement. Ça a été difficile de passer des sciences à la politique et de découvrir un monde où les hommes s'écoutent parler.
Alors, je voudrais dire que d'abord, Irène est passée à la politique dès 1930. C'est le crash boursier de 1929, où elle a observé, parce qu'elle était beaucoup plus politique que sa mère, Marie Curie n'osait pas entrer dans le politique parce que Marie Curie se souvenait que son propre père avait tout perdu parce qu'il n'était pas favorable au tsar de Russie qui dirigeait la Pologne. Mais Irène, en 1930, commence à prendre action pour dire « Attention, les droits des femmes au travail sont déjà très petits et là, elles vont encore en perdre en régression. » Donc, Irène, elle est déjà en 1930 en train de défendre les droits des femmes au travail. Et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle pour fonder la recherche scientifique en 1936. Et là, eh bien, elle découvre un autre monde. Alors cet autre monde, c'est très simple. Elle vient d'un monde scientifique où quand même, en étant Irène Joliot-Curie, on l'écoute quand elle parle. Elle parle d'égal à égal et les hommes lui répondent. Et là, elle se retrouve dans un monde qui est l'antithèse du monde scientifique, puisque non seulement les hommes ne l'écoutent pas, mais ne lui donnent pas la parole. Puisque Jean Zay, le ministre de tutelle, lui a interdit de prendre la parole à l'Assemblée nationale. On l'oublie, cela.
Oui, c'est fou.
Et il ne faut pas oublier non plus, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'au moment où elle est sous-secrétaire d'État à la recherche, en 1936, elle est à la fois prix Nobel, membre du gouvernement, mais elle n'a pas le droit de vote.
Mais oui, c'est ça qui est fou.
Oui, c'est vrai.
Mais il y a une chose quand même, Claude Montet, qui nous frappe, c'est qu'elle avait été élevée dans la science, donc elle connaissait les risques aussi que prenait sa mère. Moi, ce qui me bouleverse, c'est qu'elle meurt
de la même manière
que sa mère.
C'est bien pire. La mort d'Irène et la maladie d'Irène sont bien pires. Parce que comme Irène a accompagné Marie Curie dans les voitures, vous savez, radiologiques, les petites Curie pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Grande Guerre, Irène a été irradiée dès l'âge de 17 ans. Ah oui. Et donc, Irène va être beaucoup plus malade par moment, aller dans des sanatoriums, beaucoup plus que sa mère, Marie Curie. Elle va passer son temps à aller bien, tout en étant malade, tout en continuant à diriger l'Institut d'Uranium depuis son lit d'hôpital. Elle va le faire avec un courage extraordinaire. Et elle va mourir encore plus jeune que sa mère.
Mais oui, finalement.
Elle est morte à 59 ans et Marie Curie est décédée à 66 ans.
Ce qui est fou, c'est que Claudine Montaigne, votre mère, a dirigé l'école normale supérieure de jeunes filles à Sèvres, où Marie puis Irène Joliot-Curie ont enseigné et formé les premières générations de Françaises scientifiques. C'est une façon de prolonger à la fois leur mémoire et leur combat.
Mais c'est-à-dire que ma mère a été tellement inspirée par Irène Joliot-Curie qu'elle a été l'une de celles qui a veillé le corps d'Irène Joliot-Curie juste avant les obsèques. L'une de celles, hein. Il y en a eu beaucoup, je veux dire, elle n'était pas toute seule. Mais c'est pour vous dire que donc elle a été très combative et Irène, c'était vraiment son modèle. Et le résultat, c'est que ma mère s'est battue, elle aussi, pour ouvrir des postes de hauts fonctionnaires, y compris diplomatiques, aux femmes. Quand elle a été directrice, elle est allée jusqu'au Premier ministre. Et ensuite, c'est elle qui s'est battue et qui a réussi à faire la jonction entre l'École normale supérieure des jeunes filles de Sèvres et celle de la rue d'Ulme. Où quand même, sur le plan masculin, d'avoir des femmes qui les rejoignent, ce n'était pas forcément quelque chose qu'ils souhaitaient. Et donc, elle s'est battue.
Maintenant, tout le monde est très content que ce soit mis.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais à l'époque, ce n'était pas évident.
Merci beaucoup, Claudine Montaigne. Pour tout savoir sur les Curie, mères et filles, au pluriel, je parle des filles, je rappelle votre nouveau livre, Marie Curie et ses filles, qui vient de paraître aux éditions Calman Lévy.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
T'es bien la fille de ta mère. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque de dignes héritières. Après Cléopâtre Sélénée et Irène Joliot-Curie, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de Lily Rose Depp, une fille de, qui a su tirer son épingle du jeu.
Oui, Stéphane, une belle réussite qui vient compenser une enfance qui n'a pas dû être facile, surtout à l'école. On se souvient tous de la fameuse fiche de renseignement que les enfants doivent remplir à chaque rentrée. Identité et profession de la mère, Paradis Vanessa, star. Identité et profession du père, Deb Johnny, star mondiale. On imagine la gueule de l'instit, c'est ça, prenez-moi pour un con et moi je suis la reine d'Angleterre. Ce qui pose d'ailleurs une question, Stéphane, quand la reine d'Angleterre elle-même passe un coup de fil et qu'elle dit « Bonjour, ici la reine d'Angleterre », que peut alors répondre son interlocuteur? Il est coincé, il ne peut pas répondre « C'est ça et moi je suis vous ». Bref, Lily Rose Depp est doublement agaçante a priori. D'une part parce qu'elle est la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, dont le compte commun quand ils étaient encore ensemble avoisinait le PIB du Pérou. Et d'autre part parce qu'elle appartient à cette génération qu'avec David nous appelons les post-Zizou. Ces jeunes qui ne sont pas seulement plus jeunes que nous, ce qui déjà est assez insolent, mais oui, qui sont tellement jeunes qu'ils sont nés après la victoire des Bleus de 98. Oui, calme, skiffe-toi un petit rail de tank, ça ira mieux. Voilà, ça va mieux. C'est normal, c'est le choc psychologique. Lily Rose Depp est de 1999. Ce portrait, je préviens, va être un choc générationnel. D'un côté, les jeunes, pour qui Lily Rose Depp est une méga star. De l'autre, les boomers, comme Stéphane, pour qui il n'y aura jamais qu'une seule Lily. Lily Marlène.
Ah, des casernes.
Oui. Oui,
Stéphane. La terre une stade, sinon d'affour.
Oui, Stéphane, prenez, il me reste du tang.
Ah.
Oui, c'est donc l'égérie de la génération Z que je vous présente aujourd'hui. Lily Rose Depp, c'est déjà un prénom qui claque. De 3 Lily Rose recensées à l'état civil en 1999, nous sommes passés à 479 Lily Rose en 2010. Les crèches sont désormais envahies de Lily Rose, double prénom poétique qui a hélas muté, un peu comme la Covid-19, vers d'autres variants moins chics qui donneront d'excellents candidats de télé-réalité un jour. Il y a aujourd'hui des Candilou, des Mila Ciel, des Sarah Kim et autres Bianca Love. Lily Rose, elle, la vraie, l'originale, est née à Neuilly avant de déménager à Los Angeles. Vous vous en doutez, être la fille de deux stars international rime avec enfance atypique, un peu hors sol. Mais là, ça va quand même assez loin, puisqu'au moment de choisir un parrain pour la petite, devinez qui ils choisissent.
Le pape ?
Non, Stéphane, le pape aurait été plus judicieux. Johnny et Vanessa préfèrent opter pour Marilyn Manson. Sympa le cadeau pour ses 7 ans. Oh, parrain, c'est quoi ce gros paquet ? Il est gros ! Oh, un corbeau mort recouvert d'une semence inconnue et de sang d'agneau. Chouette, merci parrain. Quel plus beau cadeau faire à un enfant qu'un parrain sataniste ? On n'y pense pas assez. L'arrivée de la petite Lily chamboule également la vie de Johnny Depp qui raconte « À sa naissance, j'ai dû revoir de fond en comble mon mode de vie. Grâce à elle, j'ai même réussi à diminuer de moitié ma consommation de cigarettes. » Ça fait toujours 3 paquets par jour, mais c'est déjà ça. Lily Rose, elle, grandit. Aujourd'hui devenue femme, elle explique « Enfant, j'ai voulu être princesse, espionne, ballerine, actrice, mannequin, peintre, plein de trucs. » Oui, plein de trucs, Stéphane, sauf, notons-le, ASM en ZEP, assistante sociale en ZUP, ou conductrice de tram RATP. Ça, Lily Rose n'en a jamais rêvé. Non, c'est une enfant qui a déjà la fibre artistique, inscrite très certainement au cœur de son ADN. Une enfance pas si rose que ça, pour Lily. À l'âge de 3 ans, elle vit son premier traumatisme. Son père, un brin mégalo, décide de lui montrer Édouard aux mains d'argent. Elle voit papa avec des mains ciseaux entailler tout ce qui passe. Elle n'endort plus la nuit. Merci Johnny Dolto. Elle déclarera des années plus tard dans la presse « C'était beaucoup trop tôt, je crois, pour voir ce film. » Bien sûr. Même Rocco Siffredi a attendu qu'il ait 8 ans pour montrer à son fils ses prouesses dans l'excellent remake Rocco au chibre d'argent.
Je veux entrer par la porte de derrière.
Ah, je crois que vous l'avez vu, Stéphane. Non. Entre cinéphiles. C'est là qu'on reconnaît les vrais cinéphiles.
Oh non.
Mais pas osé quand même.
Lily Rose grandit entourée de l'amour de ses parents, mais aussi des paparazzi qui font le pied de grue devant sa maison nuit et jour. À ce propos, Johnny raconte cette anecdote truculente. Quand ma fille était petite, j'ai dû lui expliquer qu'il s'agissait de paparazzi et pas de paparazzi.
Ah oui, c'est drôle.
Non, mais c'est la preuve rassurante que star ou pas star, une anecdote de parents sur ses enfants, on s'en fout pareil. En 2012, Lily Rose est confrontée à ce drame familial qui frappe hélas aussi parfois les enfants riches. Ses parents divorcent.
Tout va bien.
Non, tout ne va pas bien.
Je ne peux pas qu'on en parle.
Tout n'allait plus bien entre Johnny et Vanessa. Comme des milliers d'enfants, elle aura 2 maisons. Elle oubliera son doudou chez l'un, son passe-navigo chez l'autre. On lui tiendra le fameux discours consolatoire. Mais tu te rends compte, tu vas avoir 2 maisons, 2 chambres, 2 PlayStation. Bon, sauf que dans son cas, ils lui disent plutôt « Tu vas avoir 2 villas, 2 piscines, 2 îles privées dans les Caraïbes ». Non, dans son enfance, vous l'avez compris, Lily Rose n'a manqué de rien, sur le plan matériel en tout cas. Ce qui a peut-être manqué dans l'éducation de Lily Rose...
C'est un knout.
Un knout. Il n'y aurait peut-être pas jusque-là, Stéphane. Mais une once d'autorité, oui, ça lui aurait peut-être pas fait de mal. Par exemple, quand elle décide qu'elle ne fera pas d'études et qu'elle va se lancer directement à 16 ans dans le mannequinat, là, quand même, ses parents auraient pu lui dire quelque chose. En même temps, elle avait l'argument massue. Eh, ils avaient tous les deux 15 ans quand ils ont quitté l'école, donc ils peuvent rien me dire à ce sujet. Je n'ai jamais envisagé l'université comme une option. Sa mère, Vanessa, tentera bien de dire...
Oui, non, non.
Une belle réaction d'autorité qui n'empêchera pas Lily Rose de n'en faire qu'à sa tête. À 16 ans, comme elle avait dit, elle devient donc mannequin et très vite actrice. Pas de crise d'adolescence pour autant, car tout ce que fait Lily Rose, elle semble faire pour sa mère, qu'elle admire follement. Quand on lui demande qui sont ses modèles de réussite féminin, elle répond « Romy Schneider, Catherine Deneuve, Meryl Streep et maman ». Côté cinéma, elle explique son plan de carrière au Figaro Madame. « La dernière chose qui m'intéresse au cinéma, c'est d'être jolie. » Mission peu accomplie, hein, elle fait partie de ces ovnis qui, même avec une tranche de pâté en croûte écrasée sur la gueule et des claquettes chaussettes aux pieds, reste spectaculairement sublime. Elle dit « Je pourrais même accepter d'être recouverte de boue si le personnage est intéressant. » Oh, de boue, ne nous tente pas trop Lily Rose, je suis sûr que David a déjà le titre du film.
Ça swing dans la purée.
Il faut reconnaître que pour l'instant, Lily Rose privilégie les rôles où son physique n'est pas particulièrement mise en valeur. On l'a vu dans Yoga Hosers avec son père, dans Planétarium aux côtés de Nathalie Portman. Elle a monté les marches du Festival de Cannes en 2016 pour La Danseuse. On la retrouve en 2018 dans L'Homme Fidèle, qui, hélas pour Vanessa Paradis, n'est pas un biopic de Johnny Depp. Au-delà de ses dons de comédienne, ce qui fascine bien sûr chez Lily Rose, c'est sa troublante ressemblance avec sa mère. Sur certaines photos, et avec David on en a consulté plus de 700 pour préparer cette émission, elle est la copie conforme de Vanessa Paradis avec un petit supplément d'âme que David qualifie de...
sexy porno.
Oh oui. Stéphane, il est temps de conclure ce portrait car David a des bouffées de chaleur. Il faut dire que Lily Rose Depp, c'est l'archétype...
de la fille qu'il a jamais pu...
Approcher, approcher, parce qu'il n'est que 17h30 quand même. Approcher, c'est le bon mot. Allez, je vous laisse, je vais prendre une bonne douche froide. David, vous devriez trouver quelque chose pour vous calmer.
Des radios de fellation.
Non, autre chose de préférence. Stéphane va vous passer une photo dédicacée de Nana Mouskouri, ça sera mieux.
Merci beaucoup Mathieu.
Mais c'est pas une des beautés les plus classiques du monde quand même, elle a un visage atypique.
Oui, un peu ovniesque,
ouais.
Si je peux me permettre.
Un petit peu ovniesque.
Mais ce qui est juste, c'est dans ses rôles, c'est vrai qu'elle choisit pas des rôles, c'est pas des rôles de bimbo qu'elle joue.
Non,
elle joue
non,
des
non,
rôles
c'est
où son physique n'est pas bien. Beaucoup de talent,
bien sûr.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos dignes héritières pour retrouver nos dignes chroniqueurs.
Oui Stéphane, même si le mot digne n'est peut-être pas le plus adapté pour qualifier des individus qui évoquent sans tabou certains de leurs hobbies.
Les plaisirs buccaux.
Je l'ai dit, la nourriture est un
les
plaisir buccal.
Les plaisirs buccaux, voilà, un plaisir buccal.
Tout de suite vous pensez
plaisir
vous pensez
buccal,
mal.
Plaisir total, avec Olivier Pouls.
Vous voulez un petit lait de poule les amis?
Mais qu'est-ce que c'est qu'un lait de poule?
Ben vous allez savoir dans pas longtemps.
Mais il n'y a que
et
vous.
Et je pense que je vous donnerai même peut-être l'envie d'en goûter et peut-être même
une
d'en
recette.
Faire chez vous.
Ouais. Ah, très bien.
Allons-nous kiffer le lait de poule?
En tout cas,
nous saurons en fin d'émission d'où vient le mot kiffer. Grâce à vous, Stéphane, et le mot de la fin, évidemment. Mais d'abord, les origines. Les origines d'un sport cher à Stéphane, puisqu'il pensait qu'il s'agissait de faire de la moto
non,
sur l'eau.
Savez, oui,
ça n'a rien à voir avec ça, puisque nous parlons
de
l'origine. On coule assez vite. On parle de l'aquabike.
Ouais. Moi, j'aime bien faire du vélo, voilà. Bon, j'aime bien l'eau aussi. Alors, j'ai essayé d'aller dans l'eau avec mon vélo, mais c'était nul. C'était nul, ça marche pas du tout. Et ça, ce que je viens de vous raconter, hein, cette petite anecdote truculente de moi qui fait du vélo dans l'eau, ça a été la réalité hein, de la vie entre le moment où on a inventé le vélo et il y a très peu de temps. Il fallait choisir, soit on faisait du vélo, soit on allait dans l'eau. Et on pouvait pas faire les deux. Et c'était triste quand même. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a l'aquabike. L'aquabike, on appelle ça aussi le vélo de piscine. Et c'est une activité de ce qu'on, qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le cardio, hein, qui consiste à pédaler sur un vélo immobile qu'on a placé au fond d'une piscine. Bon, moi, vous avez déjà eu l'occasion de remarquer, je suis un chroniqueur qui s'implique dans ces chroniques. Et donc, pour les besoins de cette chronique, je suis allé essayer l'aquabike. J'ai fait une séance entière d'aquabike. Alors, quand
dans
je suis arrivé.
Piscines fermées.
Dans des piscines, mais j'ai mes petites entrées.
Quand la piscine était vide.
Exactement. Voilà. C'était un vélo d'appartement, en fait, au fond d'une piscine vide. Quand je suis arrivé pour faire l'aquabike, le moniteur n'était pas encore là. Et ma première impression, c'était que c'était vraiment très, très facile. On pédale, il n'y a pas beaucoup de résistance, bof. Et puis, le moniteur est arrivé. Et là, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Et tout est dans la position, dans la position qu'on adopte pour pédaler, en fait. Une position qui fait déjà en elle-même travailler des muscles. Mais en plus, pendant que vous travaillez comme ça, il faut en plus pédaler comme un dératé. Et c'est très, très, très dur. Et je suis obligé de le dire, j'ai pas réussi à finir la séance. Alors que juste à côté de moi, il y avait des rombières qui ont tout géré leur race. Et c'était assez humiliant pour moi, du point de vue de ma virilité. Mais je pense que si on y arrive et qu'on travaille... L'aquabike, c'est quand même très bien. Et ce qui me fait dire ça, c'est le moniteur de mon cours qui s'appelait Aurélien, qui était gaulé de chez Gaulé.
Il faisait peut-être pas que de l'aquabike. Hein.
Ouais, mais en fait, je pense que quand même principalement, et ça lui a réussi, c'est très bien. Et je lui ai dit, vous êtes super bien gaulé quand même. Il m'a dit, non, mais je crois pas à ça, moi, je pense que c'est les canons de la beauté, c'est ridicule, c'est des constructions sociales. Non, mais genre, le connard, quoi. Voilà, le mec avec des muscles partout. Mais alors, qui c'est qui a inventé l'aquabike ?
La haine du monde. Le mec qui bouffe des protéines. Connard.
Mais alors, qui c'est qui a inventé l'aquabike, cet objet de torture qui rend les gens super bien foutus ? Eh bien, pour le savoir, j'ai dû aller moins loin que d'habitude, dans un endroit que Stéphane Bern connaît très bien, qui s'appelle Monaco.
Ah oui ?
Voilà. C'était la première fois que j'y allais. J'étais assez frappé quand même par la...
On ne va pas tous à Monaco souvent. Moi, j'y suis allé une fois dans ma vie.
Toutes les semaines. J'étais assez frappé quand même par la... Une des choses qui m'a frappé, c'est la densité de construction à Monaco. C'est-à-dire que le terrain coûte tellement cher qu'on ne peut même pas se permettre de perdre l'espace des routes. Et donc, toutes les routes, en fait, c'est des tunnels sous des immeubles, plein d'appartements à 10 millions d'euros. C'est assez, assez remarquable. Mais à Monaco, il y a aussi une jolie maison dans laquelle j'ai rencontré deux personnes trop sympas. Lydie Galasso et Pepito Alvarez, les inventeurs de l'aquabike.
Ça, c'est vrai.
Deux personnes, tout à fait vrai. Deux personnes visuellement très, très différentes. Lydie Galasso, c'est une dame bourgeoise qui a l'air très chic et qui parle avec un accent châtié. Voyez. Et Pepito, c'est un ancien cycliste professionnel, un peu frustre, qui a de longs cheveux gris et qui parle avec un accent de Perpignan, où il est né. Donc, c'est deux personnes très, très différentes l'une de l'autre, en tout cas visuellement. Lydie, elle était kinésithérapeute et elle a rencontré Pepito dans les années 80. Et un jour, ils se sont dit... Ensemble, ce serait bien si on pouvait faire du vélo dans l'eau, un petit peu comme moi, je me suis dit, sauf qu'eux, ils sont allés plus loin. Au début, ils sont juste contentés de mettre des vélos d'appartement dans l'eau, sauf que ça rouillait. Et du coup, c'était pas bien. Mais ils se sont pas découragés. Ils ont fait un prototype de vélo spécialement pour faire du vélo dans l'eau, donc un aquabike. Et le 11 février 1997, il n'y a pas si longtemps
c'est
que ça, ils ont déposé le premier brevet d'aquabike du monde dont on puisse retrouver la trace. Je ne peux pas absolument dire qu'il n'y a personne avant qui n'avait pas eu l'idée de mettre un vélo dans l'eau, mais en tout cas, le premier brevet qu'on retrouve, c'est celui-ci. Mais, comme souvent, c'est une histoire un petit peu triste, parce qu'ils n'ont vendu que quelques centaines d'exemplaires de leur aquabike avant de se faire doubler par plein de concurrents qui, en gros, ont eu la même idée qu'eux. Bon, ils ne sont pas à plaindre non plus, leur maison à Monaco, ça va.
Oui,
donc
visiblement.
Bon, voilà, c'est pas si grave s'ils n'ont pas vendu tant que d'aquabike que ça. Reste quand même qu'aujourd'hui, l'aquabike, ça a quand même énormément de succès, au point que c'est devenu l'une des, quand même, des principales méthodes pour maigrir du cul dans les villes occidentales.
Ah, c'est pour maigrir, c'est ciblé sur le cul.
C'est très cul.
Parce que dans l'eau, en fait, vous y a une... Comment on appelle ça une résistance,
tout à fait,
bien sûr,
tout à fait.
Qui fait que
ça, c'est super pour le cul.
Vous ne pratiquez pas l'aquabike, mais vous pratiquez la gymnastique aquatique, visiblement.
Moi, je me suis senti à la fin de la séance, c'était un petit peu plus dense à ce niveau-là. Et plus généralement, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais il n'y a pas que l'aquabike, parce que plus généralement, aujourd'hui, il y a une sorte de mode qui consiste à prendre des trucs qu'on fait d'habitude au sec et à faire la même chose dans l'eau. Il y a l'aquatire, où on tire sur des cibles en apnée, l'aquatrampoline, il y a l'aquaboxing, où on tape sur des choses sous l'eau. Donc moi, je pense qu'ici, à Europe 1, il y a peut-être une carte à jouer. On pourrait faire de l'aquaradio, hein, qui consisterait à enregistrer historiquement vôtre, par exemple, entièrement en apnée. Alors bien sûr, on entendrait beaucoup moins bien ce qu'on dit, hein, mais d'un point de vue sportif, je pense que ce serait remarquable.
Merci beaucoup, David Castel-Lopez, qu'on peut retrouver, évidemment, qu'on peut réécouter sur toutes les applis, en podcast, et puis évidemment sur le site europe1.fr.
Après une bonne séance d'aquabike, je crois qu'on a besoin de réconfort.
Bah oui, un
on
petit lait de poule.
Une recette mystérieuse pour moi, en tout cas, le lait de poule.
Oui, je vois que votre œil scintille de curiosité. Vous m'avez dit, je n'ai pas la moindre idée de ce que
je ne pourrais pas citer un ingrédient, je ne sais pas ce qu'il y a
dedans. Vas-y, lait de poule, et non pas lait de poule, hein, comme a dit Stéphane.
Hein. Oui, parce que ça n'a
rien à voir.
Oui, c'était encore une digression potage de Stéphane, il y en a décidément beaucoup dans cette émission.
Bah oui. Bon, vous savez que la poule, si elle produisait du lait, ça se saurait. Hein. Évidemment, elle n'en
elle
fait pas.
Elle aurait des dents, déjà.
Ben voilà, donc ça n'a évidemment strictement rien à voir avec du lait potentiellement produit par une poule. C'est une préparation qui a un descendant, qui est une boisson médiévale, qui s'appelait le posset. Alors je comprends qu'on l'ait oublié, celui-là, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais envie de le goûter. Alors le posset, c'était un mélange de bière, d'œufs, de lait et de noix de muscade. Oui. Si vous imaginez le truc...
Oh, c'est violent, ça.
Oui, c'est un peu violent. Oui. Je ne pense pas que ce soit très bon. Et le lait de poule, en revanche, c'est une boisson qui a été inventée un petit peu plus tard et qui est là aussi un mélange dans lequel vous allez trouver des jaunes d'œufs, du sucre, de la crème liquide, du lait et éventuellement un petit peu d'épices, cannelle ou vanille, et parfois même un petit trait d'alcool, c'est du rhum pour vous faire plaisir, par exemple. Bah oui, c'est même
bon. C'est une crème brûlée.
Non, parce que ça reste liquide.
C'est liquide.
Et traditionnellement, c'est quelque chose qui se buvait plutôt en hiver, notamment au moment des fêtes de fin d'année, parce que tout ça mélangé, vous avez compris que c'est quand même assez revigorant. Ça aurait le pouvoir d'ailleurs de vous réchauffer un peu.
Bien pour le ski, ça.
Exactement, parce que ça peut se consommer ou chaud, ou tiède, ou froid. Et moi, je l'ai goûté froid dans un certain nombre de restaurants à l'époque où ils étaient ouverts, et j'espère qu'on va pouvoir les goûter bientôt. Et ça fait un dessert, je trouve, assez sympa. Parce qu'écoutez bien la technique pour le réaliser, il faut que ce soit liquide, mais pas trop liquide. Qu'on ait un petit peu la texture d'une crème anglaise.
Ah ouais.
Et donc c'est liquide, mais un peu épais quand même. Donc ça se boit, mais sans...
Remarquez, boire une crème anglaise, moi je dis oui. Hein.
Bah oui.
Alors, c'est très sucré, hein, quand même.
Suivez-moi pour la recette que vous allez pouvoir réaliser extrêmement facilement. Alors, côté course, vous allez chez des œufs, on a besoin de 4 jaunes d'œufs, 5 cuillères à soupe de sucre, 20 centilitres de crème liquide, 80 centilitres de lait, et puis moi je mets de la vanille, parce que je ne suis pas un fan de cannelle, je préfère la vanille, bon, c'est un choix, et un tout petit trait de rhum. Alors voilà pour la préparation. En cuisine, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. On va porter le lait et la crème à ébullition. On va rajouter la petite poudre de vanille, laisser infuser un tout petit peu. Et puis, comme on le ferait pour une crème anglaise, on va verser le lait et la crème encore chaud sur les jaunes d'œufs en mélangeant tout le temps. Et ça va épaissir légèrement, puisque les jaunes d'œufs, alors sans coaguler, ont quand même un pouvoir... épaississant. Donc on va avoir une texture qui sera un petit peu épaisse. Et puis juste à la fin, on va rajouter un petit trait de rhum. Moi, je laisse refroidir ça dans le frigo tranquillement pendant une ou deux heures. Et hop, je sers mes petits laits de poule au moment du dessert.
Et vous mangez ça à la cuillère ou directement
dans des verres ou dans des tasses. Et ça se boit, je vous dis, c'est un petit peu épais, mais pas trop.
Ça remplace le dessert ou c'est un pré-dessert?
Gourmand comme vous êtes, je sens que derrière, vous allez réclamer à Paris-Brest en disant c'est sympa ton lait de poule, mais qu'est-ce qui vient derrière? Mais franchement, en tant que tel, si on fait un petit peu attention, c'est vraiment très bon. Et en plus, je ne vous raconte pas que quand vous annoncez lait de poule aux invités, avant qu'ils sachent ce qu'il y a dedans,
c'est un petit succès. Est-ce que ce n'est pas voisin de ce truc qu'on boit aux États-Unis à la fin de l'année qui s'appelle l'eggnog?
Si, exactement. Absolument.
C'est de l'eggnog, en fait.
C'est le voisin de l'eggnog, exactement.
Il a tellement voyagé.
On boit aux États-Unis ou en Angleterre, d'ailleurs.
Oui, c'est international, ce verre-là.
Tous les breuvages.
Et en Belgique, on en fait une variante aussi qu'on appelle l'advocate.
Il y a de l'avocat?
Il n'y a pas d'avocat, mais ça, de l'advocate. Et c'est la version belge du lait de poule.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes, même les plus étonnantes, sur le site europe1.fr. Stéphane, vous êtes là pour nous guider à travers les mots. Aujourd'hui, un mot qui vient pas de chez nous.
On va kiffer
notre race.
C'est tout à fait rien, en tout cas, qui ne me permette de contrevenir à la loi. Je vais vous donner l'origine du mot kiff, du verbe kiffer, c'est faire un kiff. Je te kiffe grave et même parfois, quand c'est super bon, je te surkiffe.
Si ma mémoire est bonne, on avait vu ici même l'origine de ces kiff.
Oui.
Pour dire c'est pareil, j'imagine, ça vient également de la langue arabe.
Exactement, kiffer vient sans surprise de kiff. C'est de l'arabe maghrébin qui ça signifie amusement, plaisir. Jusqu'au XVIIe siècle, il est directement associé à l'alcool. 100 ans plus tard, il fait référence à tout ce qui provoque une félicité factice. Et en 1853, le petit Robert Français met les pieds dans le plat en parlant, je cite, d'un état de béatitude provoqué par un mélange de tabac et de chanvre indien. Les Arabes d'Égypte appellent le kayf le hashish. En fait, c'est au XIIIe siècle, au cœur des montagnes perses, dans un couvent, que l'on trouve pour la première fois la trace de la fameuse plante que le cher Haïder aurait découvert par hasard. Après en avoir fait goûter à ses disciples, ils se seraient tous trouvés dans une disposition gaie et joyeuse. Voyant cela, il fit promettre à ses amis de garder cette plante secrète et de n'en parler surtout à personne. Bon, inutile de dire que ça n'a pas vraiment marché. Quelques temps plus tard, en octobre 1800, le jeune général Napoléon Bonaparte, qui a failli se faire poignarder par un fumeur de haschich, édite un décret pour en interdire la consommation en France. Là encore, peine perdue. Mais fort heureusement, aujourd'hui, si vous entendez kiffer, vous n'êtes pas forcément en compagnie d'un rasta. Cela désigne juste un grand plaisir proche de cette béatitude dont je vous parlais.
Historiquement vôtre, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Un numéro qui était dédié aux dignes héritières de l'histoire qui ont eu un destin semblable à celui de leur mère. Stéphane, pour reprendre votre expression, quelle fille d'eux avez-vous le plus kiffé?
Écoutez, j'étais très ému par le destin de Cléopâtre Sélénée.
Qu'on connaît le moins finalement.
Oui, exactement. Ben oui, j'ai le sentiment vraiment d'apprendre quelque chose.
Moi, je ne savais même pas que Cléopâtre avait une fille. Alors. C'est-à-dire, c'est vrai. Je partais vraiment loin. Oh, dis donc, David se fout de ma gueule. Ah, ben c'est pas très fair-play ça. David me fait des yeux, genre, ah oui, mais quand même, tu présentes l'émission, tu connais pas la fille de Cléopâtre. Bravo, mon vieux. Ouais. Eh ben, c'est du joli, David. On vous retrouve quand même demain avec plaisir. Est-ce qu'on peut déjà révéler le programme de demain, Stéphane? Est-ce qu'on le connaît?
Oui, demain, il voit tout en noir. On réunit trois personnages qui ont mis du noir dans leur vie, pour notre plus grand plaisir, faut bien le dire. Oui, oui. La dame en noir, Barbara. Et puis le peintre qui a passé les 100 ans, Pierre Soulages, et a fait du noir une sorte de couleur lumineuse.
Et eux aussi, ils voient tout en noir. Vous les avez reconnus, Stéphane ?
La famille Adams. Oh, j'ai déjà peur.
Je vous comprends, ils sont flippants. Alors à demain, Stéphane, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.